L'évangile de ce jour, en ce dimanche de printemps qui ne semble pas venir, je ne parle pas du dimanche, mais du printemps, on va lire dans Matthieu chapitre 19, évangile selon Matthieu. Quatre hommes ont été employés par Dieu pour écrire l'histoire de Jésus. Et chacun voit un côté. Ça se ressemble, il y a des différences. Matthieu 19, verset 16. C'est l'histoire d'un jeune homme. Ici, voyez-vous, dans d'autres évangiles, il est écrit « jeune homme ». Ici, c'est simplement un homme qui était un responsable religieux et qui avait beaucoup de qualités et beaucoup d'argent. Avez-vous des qualités? Avez-vous de l'argent? On ne vous demande rien ici. Ici, c'est la maison pour les pécheurs, c'est la maison pour les pauvres, c'est la maison pour tous ceux qui veulent vivre. Alors je fais maintenant cette lecture à partir du verset 16, Matthieu 19, 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. » C'est beau quand même. « Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et moi aussi, et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible, heureusement. Amen. » On devrait poser ces questions. Qu'est-ce que la vie? On vit, on ne sait pas pourquoi on vit. On vit en général, on dit, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut travailler, se marier, avoir des enfants. Il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que la vie et comment faut-il la vivre? Voilà les questions que l'on n'apprend pas souvent dans les écoles. Qui a le souci de la suite de sa vie? Regardez ce jeune homme. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qui a le souci de la suite, c'est-à-dire d'une vie qui dure toujours? On pense à sa retraite, pardon, aux vacances, à sa retraite, aux obsèques, à sa place au cimetière. Il manque quelque chose. Et la suite? Où serez-vous dans le siècle prochain? Vous vous êtes posé la question? Où serez-vous au 21e et au 22e siècle? J'aime cette question, que dois-je faire pour hériter, pour avoir la vie éternelle ? Elle n'est pas très bien posée, mais il y a une vérité dans cette question. C'est qu'il faut faire quelque chose, que ce n'est pas automatique. On n'entre pas dans la vie avec Dieu comme le papillon devient, comme la chenille devient papillon, comme on change d'année, comme la fleur devient fruit. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas programmé d'avance. Je sens qu'il y a chez ce jeune homme une inquiétude quand même, parce qu'il est plein de moralité. Depuis son enfance, on a l'impression qu'il n'a pas fait grand mal. Il est plein d'intelligence, plein de jeunesse, et plein d'argent aussi, bon, plein de sécurité. Et malgré tout, il y a en lui, et j'espère en vous aussi, une inquiétude pour après. Que deviendrons-nous une fois que nous aurons fermé les yeux aux lumières de ce monde ? Que faut-il faire pour entrer dans la vie éternelle ? On a le sentiment qu'il faut passer un examen. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je n'ai pas dit un concours, en disant que le meilleur y rentre, parce que le meilleur, c'est le Christ. Il n'y aurait que lui au ciel tout seul. Mais que faut-il faire ? On a le sentiment qu'il faut faire ses preuves. Il faut un examen. Mais dites-moi, de vous à moi, comment l'examen de notre vie serait-il réussi ? Aux yeux de Dieu, qui connaît nos sentiments, qui connaît nos pensées, qui connaît nos secrets, qui aujourd'hui peut dire « je vais réussir l'examen de ma vie » ? Vous ? Jésus dit « pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Voulant dire « ce qui est bon pour te faire entrer dans le ciel, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui va le faire. Un seul est le bon, Dieu. » Autrement dit, ton entrée dans le royaume d'en haut ne dépend pas de toi, mais dépend d'abord de Dieu. Heureusement, Dieu ne dit pas « montez, faites vos efforts pour monter ». Dieu nous dit « je descends pour vous chercher ». Car qui peut monter dans le ciel ? Sinon celui qui en est descendu pour nous faire monter dans le ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devenu homme. Et Jésus va citer les commandements. Vous connaissez les commandements ? Vous les avez appris dans votre enfance, peut-être. Les 10 commandements de Dieu. Le Seigneur va les citer parce que les 10 commandements de Dieu sont un chemin pour vivre. Oh, au fait, vous savez, quand ils ont été donnés, ils ont été donnés après la sortie d'Égypte, quand le peuple d'Israël a passé à travers la mer Rouge, qu'ils ont commencé à aller un peu plus loin dans le désert et sur le mont Sinaï, maintenant c'est en Égypte, et bien sur le mont Sinaï, Dieu a donné sur des tables de pierre, il a écrit, Dieu a écrit, Dieu sait écrire. Il a écrit les 10 commandements. Ce ne sont pas des commandements pour sortir d'Égypte. Dieu n'a pas dit que celui qui n'a pas tué se lève pour sortir d'Égypte, que celui qui n'a jamais eu une mauvaise pensée, que celui qui n'a jamais volé, que celui qui n'a jamais fait du mal à son père et à sa mère, qu'il se lève pour sortir d'Égypte. Il n'y aurait pas eu grand monde. Dieu a donné les commandements après. Mais en sortant d'Égypte, Dieu a dit à son peuple, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. méchants, bons, petits et grands, jeunes ou âgés, je vous ai fait sortir. Mais maintenant, je vous donne des commandements pour que vous ne retombiez pas en esclavage dans vos pensées. Parce que ne pas aimer son père et sa mère, c'est un esclavage épouvantable. Parce que haïr son prochain, c'est un esclavage. Voler est un esclavage. Tout péché, a dit Jésus, a un pouvoir de tyrannie sur nous. On se lie pieds et mains quand on commence à faire le péché. Alors le Seigneur a donné ses commandements pour qu'ils ne redeviennent pas esclaves, peut-être pas des Égyptiens, mais de leur cœur mauvais. Alors il a donné 10 paroles. C'est simple. Pas les droits de l'homme. En France, on ne parle que de ça, des droits de l'homme. Heureusement qu'on les a d'ailleurs, quand même. Mais les devoirs de l'homme. Parce que nous, on veut que des droits. J'y ai droit. Mais Dieu nous dit aussi, vous avez des devoirs. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Ne convoite pas son âne. Bon, ça, c'était dans le passé. Maintenant, on vous dirait, ne convoite pas sa voiture, sa réussite, son succès. Et j'ai remarqué que dans tous ces commandements, le Seigneur n'a pas cité le plus grand commandement. J'ai bien observé. Quel est le plus grand commandement ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme. Il ne l'a pas cité. Il l'a oublié. Non, il ne l'a pas oublié. Et puis il n'a pas cité, tu ne te feras pas des faux dieux. Et puis il n'a pas cité, tu ne te feras pas des images pour les adorer. Il n'a pas cité les commandements qui intéressent Dieu. Il a cité que les commandements qui intéressent, qui touchent le prochain. Pourquoi ? Est-ce que cet homme avait des problèmes avec Dieu ? Avez-vous des problèmes avec Dieu ? Êtes-vous en bon terme avec lui ? Le saluez-vous chaque matin ? Il ne s'agit pas d'enlever son chapeau. Voltaire n'enlevait pas son chapeau. Il voulait rester digne, maître de lui. Mais chaque matin, lui demandez-vous, Seigneur, éclaire ma journée, que ma journée devienne ta journée d'amour et de grâce. Où est-ce que vous êtes sans conversation, sans parole, sans regard, sans échange, chacun chez soi, avec ce Dieu qui vous a fait à son image et qui est prêt à vous donner l'abondance de sa maison ? Cet homme a-t-il des problèmes avec Dieu pour que le Christ ne lui cite aucune parole sur Dieu ? Dites-moi, mes amis, entrerons-nous dans la maison de Dieu, dans la vie éternelle, sans amour pour Dieu, sans amour de Dieu ? Vivrons-nous avec Dieu sans amour ? Quel mariage étonnant, ça serait ! Parce que certains sur la terre ne veulent bien aller dans le ciel, mais ne parlez pas de Dieu. Comment voudriez-vous vivre avec Dieu sans amour pendant toute l'éternité ? Quel mariage étonnant ! Savez-vous que Dieu ne divorce pas ? Quand il déclare son amour, c'est pour toujours. Y a-t-il un bonheur sans amour ? Pouvons-nous entrer dans le ciel sans connaître celui qui nous accueille, celui qui nous y a préparé une place ? Donc, Jésus n'a pas cité les commandements sur Dieu. Il a cité les commandements sur le prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Oh, j'ai un doute, là. J'ai un doute sur vous et sur moi. J'ai un doute sur ce jeune homme riche. J'ai un doute. Vous ne le direz pas à personne. Je suis sûr que vous allez le dire au premier venu. Je me demande si ce jeune homme qui a dit « J'ai observé toutes ces choses », un autre évangile dit « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse ». Dès sa jeunesse, c'était un jeune homme magnifique, admirable, beau, exemplaire. Dès sa petite enfance, un jeune homme comme des parents voudraient. Mais quand le Christ lui a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu pour entrer dans le ciel, tu aimeras ton prochain comme toi-même », le jeune homme a dit « J'ai observé tout ça ». Eh bien, moi, j'ai un doute. Parce que s'il avait aimé son prochain, il ne serait pas si riche que ça. Vrai ou faux ? À moins qu'il vive dans un pays où il n'y a que des riches, un pays où il n'y a pas de malheureux, de boiteux, d'aveugles, de pauvres, de mendiants. Mais je vois que dans les évangiles, il y a beaucoup de mendiants. Et s'il avait eu l'amour pour son prochain, il n'aurait plus un sou en poche, parce qu'il aurait donné. Alors que là, il est riche, trop riche. Avez-vous remarqué que le Christ n'a pas cité tous les commandements, toutes les vérités ? On dit parfois, il ne lui a pas dit ses quatre vérités. Vous avez remarqué ? Il aurait pu lui dire ses quatre vérités. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Le Seigneur ne veut pas nous anéantir. Rappelez-vous quand il a écrit par terre devant la femme adultère qu'on a amenée de grand matin devant tout le monde en disant « Voilà ce qu'elle a fait, maintenant il faut la tuer, il faut la lapider, la couvrir de cailloux, l'enterrer, voilà, c'est fini. » Et Jésus, il a simplement écrit, il n'a pas parlé, il n'a pas hurlé, il a écrit par terre dans la poussière quelque chose et tout le monde est parti. Il est discret, il est pudique. Avec le jeune homme, il ne lui a pas dit ses quatre vérités. Il l'a amené tout doucement à la vérité. Vous vous rappelez l'enfant prodigue ? Cet enfant qui a claqué la porte de son père, de sa mère, de son frère, de la ferme, de la maison, la porte de sa jeunesse, et qui est parti vivre avec les débauchés dans un pays très lointain. Quand il est revenu chez lui, parce qu'un jour on revient mal, on revient maigre, on revient affamé, on revient cassé, on revient détruit, mais on revient un jour. Quand il est revenu, le père, il aurait pu lui donner une liste de reproches qui aurait été accablant et vrai. Il aurait pu dire, tu as été absent quand ta mère a été malade et elle a pleuré pour toi. Tu as été absent à Noël dernier et on a tous pleuré à table quand on a partagé le cadeau de Noël. Tu n'étais pas là quand on a eu des difficultés avec les voisins. Et ton courrier, on ne l'a jamais reçu. Et tu as gaspillé le travail de ton père. Et tu n'as rien construit dans ta vie. Et tu as gaspillé ta santé. Il aurait pu une liste complète. Vous savez ce qu'il a dit, le père ? Mon fils était mort. Et il est vivant. Il était perdu. Je l'ai retrouvé. Magnifique. C'est beau. Au lieu de condamner, le Père relève. Et là, le Christ, devant ce jeune homme, qui pour moi est un jeune homme aveugle, qui ne se connaît pas, et peut-être que vous ne vous connaissez pas non plus, et qui ne connaît pas Dieu, eh bien, devant ce jeune homme, Jésus est doux. Jésus est patient, Jésus est admirable. Mais c'est Jésus. Il est devant un homme sincère. Il ne se connaît pas, ce jeune homme. Il ne sait pas qu'il a mal fait. Il n'a pas fait tout comme il fallait. Mais Jésus l'aime parce qu'il est sincère. Et quand on fait un pas vers Dieu, un tout petit pas, Dieu en fait un aussi. Le Seigneur ne dit pas, tu ne vaux rien, tu as certainement fait du mal, tu as certainement regardé les filles, tu as certainement triché avec eux à l'école. Non. La Bible dit, Jésus l'a aimé. Vous savez, mes amis, l'Évangile n'est pas un vent violent qui déracine tout. C'est une douce lumière qui éclaire nos cœurs. Newman, cet homme de Dieu magnifique, a écrit ce cantique « Douce lumière, conduis-moi ». Ça n'éblouit pas, ça n'aveugle pas, ça éclaire. L'Évangile éclaire. L'Évangile nous a été donné pour nous montrer tout doucement le cœur de Dieu. Un Dieu aimant, un Dieu prêt à tout pour nous. Et puis l'Évangile nous a été donné pour nous montrer le cœur de l'homme. L'homme déchiré, déchiré par les autres, déchiré par ses échecs, déchiré par ses erreurs qui ont défiguré. Mais l'être humain garde l'image de Dieu en lui. Que voyons-nous dans la lumière de Dieu ? Que sommes-nous dans la douce lumière de l'Évangile ? La Bible dit, il faut que ce jeune homme l'écoute, la Bible dit que nous gémissons. Personne ici ne gémit ? Nous gémissons et tout ce que Dieu a créé gémit, tout. Les animaux, les plantes, les astres, les galaxies, tout gémit, dit la Bible. Tout soupire, tout attend quelque chose d'autre. Vous n'attendez rien ? Quand on n'attend plus rien, c'est que la vie est finie. Nous attendons une autre naissance, nous attendons une autre vie, un renouveau, une renaissance, une résurrection. On peut mépriser Dieu, on peut mépriser la foi, on peut mépriser l'Église, on peut mépriser le pasteur et le Seigneur Jésus. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas mépriser. Il y a une vérité qui reste là, forte. Nous gémissons. On n'est pas bien dans notre cœur. On gémit après quelque chose d'autre. On voudrait aller ailleurs. Comment ? Où ? Où la vie nous mène-t-elle ? Le jeune homme, il m'a vraiment surpris quand le Christ lui a dit « Voilà, tu aimeras, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme a dit « J'ai fait tout ça. » Il y a quelqu'un qui peut dire la même chose ? Et il a dit même, que me manque-t-il encore ? Parce que j'en ai fait assez quand même. Je le mérite, mon ciel. J'ai tous mes bagages. J'ai l'impression qu'il se croit sans péché. J'ai l'impression qu'il se croit sans reproche et sans peur, devant Dieu, sans erreur, sans infirmité, sans égratignure. Sans bosse, sans rien, il se croit parfait. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Et vous ? Regardez-vous bien, on a des égratignures. On a égratigné aussi les autres, de temps en temps. Quand on n'est pas content, ça fait mal. Hein ? Mais on s'est égratigné soi-même dans l'âme. Jésus, il nous a raconté un jour une histoire imaginaire. Mais cette histoire, elle est tellement vraie pour beaucoup de gens. Il nous a dit qu'il y avait un homme qui rentrait dans la maison de Dieu, dans le temple, et qui priait un peu comme cet homme-là, qui disait « Mais qu'est-ce qui me manque encore ? J'ai fait tout, j'ai tout bien réussi. » Et cet homme, il priait en disant « Je ne suis pas comme les autres. » Ça commence bien. « Je ne suis pas comme ce misérable-là, ce percepteur d'impôts-là qui ne vaut rien du tout. Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont tous des gens voleurs, tous des gens menteurs, tous des gens ravisseurs, etc. » Cet homme-là ne se connaissait pas. Cet homme-là ne s'est pas regardé dans le miroir de la vérité de Dieu. Parce que nous sommes tous malades. Nous avons besoin que Dieu nous guérisse. Mais Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, donc il n'était pas loin de la perfection. Si tu veux être parfait, voyez-vous, il ne se moque pas en disant, mais mon pauvre ami, tu ne connais pas ta vie, mais sais-tu tout ce que tu as rêvé, tout ce que tu as fait dans ta pensée, dans ton secret. Il lui a dit, non, il ne lui a pas parlé avec brutalité, Jésus ne se moque pas de nous. Il ne se moque de personne. Il n'a aucun mépris pour le plus misérable, aucun dédain pour personne. Il regarde tout le monde, il suit tout le monde, jeunes ou âgés. Ceux qui sont en fin de vie à Pontchaillou aujourd'hui, ils les regardent. Ceux qui sont dans les maisons de retraite et qui vont mal, ils les regardent. Ceux qui sont à l'école maternelle, ils les voient aussi. Ils voient tout et il aime tout le monde. Il a aimé ce jeune homme. Si on s'approche de lui, avec peut-être toutes nos imperfections, il nous aime. Avant qu'on fasse le bien, avant qu'on fasse le mal, quand nous n'étions pas encore nés, il nous aimait déjà. Il nous a aimés de toujours. Il nous a vus comme la maman attend un enfant. Elle sait que l'enfant est là, elle ne l'a jamais vu, mais enfin, elle sait qu'il est là, elle le sent d'ailleurs. Hein, et elle l'aime déjà. Et Dieu, avant qu'on naisse, nous aimait profondément. Alors Jésus va répondre à ce jeune homme. Il va vous répondre aussi à vous aujourd'hui. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, suis-moi. Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous montrer la porte qui mène à Dieu. Il est venu nous dire, si tu veux entrer dans la vie, eh bien, c'est moi ton guide. Personne ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Amen. Il n'a pas dit, je te montre un chemin. Ce n'est pas pareil. Il n'a pas dit, tu vas prendre la troisième à gauche là-bas. Puis après, tu tourneras à droite et c'est tout droit en face. Attention, il y a un carrefour. C'est moi qui va te mener. Je suis le chemin qui va te porter, qui va te transporter. C'est moi qui serai ton guide toute ta vie. On ne peut pas aller vers Dieu sans l'aide de Dieu quotidienne, sans la présence de Jésus avec nous chaque jour. Mais comment il va faire, le jeune homme riche ? Il est chargé comme un chameau. Il est chargé, pas comme un mulet, comme un chameau, c'est écrit dans la Bible, on l'a vu. Et Jésus a dit, il n'y a que les couturières qui savent ça. Un chameau ne peut pas rentrer par le trou d'une aiguille. C'est vrai ? Mesdames, avez-vous déjà fait passer un chameau par le trou d'une aiguille ? Déjà le fil, j'ai du mal à le faire passer. Et vous ? Oui, il est chargé, ce jeune homme. Il est tellement chargé qu'il a dans son cœur un autre amour. Il a un autre Dieu qui le rend complètement lourd, aveugle, pesant. Cet amour, c'est l'argent. Il possède de l'argent, mais le plus grave, ce n'est pas ça. C'est qu'il est possédé par l'argent. C'est différent. Les grands biens n'empêchent pas d'entrer dans le ciel. Mais c'est l'amour des grands biens qui empêche d'entrer dans le ciel. Parce que quand on a de l'amour pour la richesse, et qu'on ne pense qu'à ça, et qu'on ne vit que pour cela, alors la richesse devient un dieu qui s'appelle dans la Bible Mammon. Mais Jésus va parler. Si tu veux entrer dans la vie, suis-moi, mais avant, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. C'est fait. C'est dit. La parole de Jésus est un bistouri. Elle enlève le mal. Oui, vous le voulez ? Toujours, ça va ? Vous le voulez ? Parce qu'on y tient notre mal. Le mal ne nous fait pas toujours mal. Le mal, parfois, fait beaucoup de bien. Mais ça finit par nous tuer un jour ou l'autre. La parole de Jésus, c'est un bistouri qui descend dans les profondeurs du cœur, des pensées, des sentiments. La Bible dit même un mot qui peut vous faire rire, jusqu'à la moelle des os. Jusqu'à l'imagination. Vous savez ce que dit le livre des Proverbes ? Dans l'imagination du riche, la fortune, c'est une grande muraille. Ça le protège. Jésus va rentrer dans l'imagination. Il n'y a pas que la fortune qui nous fait rêver, qu'on est fort, qu'on est bien, qu'on est puissant. L'orgueil aussi. La gloire, le succès, le pouvoir, l'ambition, l'alcool. Tout ce qui nous fait dire au fond de nous-mêmes, cette petite voix tout suintante là qui nous fait dire « t'as besoin de rien, t'as tout ce que tu veux, t'es bien comme ça, t'as pas besoin de Dieu, ça te suffit comme ça, tu peux continuer ». Cette voix-là, c'est la voix de Satan qui nous a dit un jour, dans le jardin d'Éden, « vous serez comme des dieux ». Ça veut dire « Dieu ». C'est vous les dieux. Vous ferez tout ce que vous voulez. Vous mourrez. Vous souffrirez. Voilà ce qu'il n'a pas dit. L'apôtre Paul, quand il écrivait dans ses épîtres autrefois, il y a 2000 ans, il écrivait dans les églises et il disait, en parlant de certaines personnes, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne vivent que pour la terre, mais notre ville à nous, notre cité, notre royaume, il est dans les cieux. Voilà comment il parlait l'apôtre Paul. Alors voyez-vous, mes amis, entrer dans la vie de Dieu, suivre le Christ, aimer Dieu de tout son cœur, ça nous demande une décision. On a des bagages, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les bagages? La porte, elle est large comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou je reste à la porte avec tous mes bagages, ou je rentre, mais il faut que je me libère de mes bagages. Suivre le Christ nous demande une décision, nous demande un choix, nous demande une séparation. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir la nuit et le jour, le diable et Dieu, l'enfer et le ciel, le bien et le mal. Faire un choix. Je vous rappelle quand même, si vous l'avez oublié, que Jésus s'est séparé. Il a fait un choix. Il s'est séparé des splendeurs de sa maison pour venir rejoindre nos prisons. Et nous, allons-nous nous séparer de nos prisons, de péché, de mal, pour rejoindre ses splendeurs? Lui, il s'est séparé. Et nous, on veut tout. On veut rester dans la boue et dans la pureté. On veut rester dans la confusion et dans la clarté. C'est pas possible. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus nous a donné l'échelle des 10 commandements. Mais je vais vous dire un secret. Sur les 10 commandements qui sont comme des barreaux d'une échelle, tous les barreaux qui cassent. J'ai pas fait ceci. On n'avance pas, on recule. On n'arrive pas à monter parce qu'il y a toujours un barreau qui casse. Alors Jésus nous a dit le 1er commandement et le 11e commandement. Suis-moi. Amen. Suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. C'est moi l'intermédiaire, c'est moi le pont, c'est moi la véritable échelle, c'est moi la route. Le trésor, c'est lui. Parce que dans le ciel, un trésor dans le ciel, ça ne veut pas dire qu'on aura un compte en banque, qu'on retrouvera le crédit mutuel dans le ciel. Le trésor dans le ciel, c'est qu'on sera bien avec lui. C'est pas beau, ça? Vous préférez ça ou avoir un compte en banque? On sera bien avec lui. On sera heureux avec lui. On vivra toujours des grandes vacances avec lui. On ne se séparera jamais. On sera dans le bonheur de Dieu pour toujours. Et ça, ça vaut bien une petite opération chirurgicale. Non, vous ne trouvez pas? Tchou, tchou. Vends ce que tu as. Sépare-toi de ça. Sépare-toi de ton orgueil. Sépare-toi de cette méchanceté. Sépare-toi de tes faux rêves. Et puis, suis-moi, suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. Le Seigneur me le dit à moi aujourd'hui, à vous aussi. Suivez le Seigneur et vous aurez la vie éternelle. Amen. Je prie le Seigneur pour vous. Merci pour ta parole qui résonne. au fond de nos cœurs, comme elle a résonné au cœur de ce jeune homme qui n'a pas suivi, qui a préféré garder les biens de ce temps provisoires, mais nous voulons prendre les biens éternels, l'amour de Dieu, la présence de Dieu avec nous, le pardon de Dieu, la compagnie merveilleuse de Dieu avec nous. Seigneur, nous entendons cet appel qui retentit en nous. C'est le même appel, c'est la même parole, c'est le même chemin, le même ciel, le même Seigneur. Les temps n'ont pas changé, tout reste pareil. Seigneur, fais retentir ton appel dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui pour que chacun prenne le chemin qui mène à la maison du Père. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur.